après minuit. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, deux petites choses. Le random item review de cette vidéo sera un peu particulier, donc je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Et si le cœur t'en dit, je t'invite à mettre un like sur cette vidéo, à mettre un commentaire, à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas fait, à t'abonner aussi sur mes autres réseaux sociaux, je t'invite à aller voir ce que je fais ailleurs. Et voilà, trêve de blablaterie, on y va. Est-ce que tu connais l'application Randonautica? Elle a été lancée en février 2020, un peu avant le début du premier confinement. Le timing du Covid a été excellent sur ce coup-là. Randonautica, c'est une application de géocoaching, une sorte de chasse au trésor qui se base sur ta position GPS et te fait te balader autour de chez toi. Un peu le même principe que Pokémon Go, mais Randonautica ne t'aidera pas à trouver des Pokémon ou des pièces d'or sur une île déserte. L'application est un peu différente du géocoaching classique qui consiste à aller chercher un objet placé quelque part par un précédent internaute. Ici, l'application s'inspire de la théorie du chaos et des programmes de jeux de hasard pour générer des coordonnées de manière aléatoire. L'application se vante même de lire dans les pensées de ses utilisateurs. Quand tu cherches un endroit à visiter, l'écran de chargement affiche des phrases du style « Qu'aimeriez-vous obtenir ?». Visiblement, manifester une intention au moment de la recherche permettrait de trouver des lieux plus pertinent. Alors, c'est un peu comme faire une doua, une prière à Dieu et dire « Regarde, je veux des thunes, un mari, un chat », sauf que tu demandes à une application mobile qui va te dire à quel endroit te rendre pour trouver ton bonheur. L'idée de Randonautica, c'est surtout de pousser l'utilisateur à explorer sa région pour ensuite rendre compte de ses découvertes auprès de la communauté sur l'application. C'est une bonne excuse pour sortir de chez soi, même si c'est vrai que c'est tombé au pire moment de l'histoire, l'idée était quand même bonne. En 6 mois seulement après son lancement, l'application est téléchargée près de 10 millions de fois sur les différentes plateformes. Mais ce succès se voit surtout dans l'explosion des contenus qui y sont liés sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok et YouTube. De nombreux adolescents se filment en pleine exploration. Ils utilisent d'ailleurs beaucoup le mode creepy qui permet de chercher des lieux creepy, c'est dans le nom. Alors, on a tous été adolescents, on a tous connu l'adrénaline d'une forêt bien flippante, des histoires de la Dame Blanche et compagnie. À l'ère des réseaux sociaux, c'est aussi bien sûr un bon moyen de créer des vidéos qui feront le buzz, surtout si on n'oublie pas de mettre un titre parfois bien putaclic, avec un fond sonore bien dark and creepy. Et en plus, quand ton YouTuber ou ton TikToker préféré poste une vidéo intitulée « N'utilisez surtout pas Randonautica », bah, ça donne encore plus envie de tester cette application. Ces explorations, parfois elles se font en pleine nuit et dans des endroits isolés, dangereux, évidemment ça inquiète beaucoup les parents. Certaines mauvaises rencontres vont être très médiatisées et laissent présager le pire aux utilisateurs qui ne prennent pas leurs précautions. Et du coup, par curiosité, j'ai téléchargé l'application et ça m'a généré un endroit vide dans le 18e arrondissement, je sais pas ce que ça veut dire, mais visiblement t'as des endroits qui sont considérés comme vides, il y en a qui sont puissants, il y en a qui sont attracteurs, enfin bon, c'est tout un système, je me suis pas encore penchée dessus à fond, j'ai pas encore été sur place dans le 18e, j'avais pas trop le temps, mais j'irai et je te ferai un compte-rendu, si je reviens vivante. Avant de télécharger l'application, je suis allée voir les avis, histoire de rigoler, et il y a un mec qui dit « Faites attention, ne partez pas seul, et dites au moins à un de vos proches où vous allez ». Du coup, j'ai tombé le sourire direct. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à aller voir sur TikTok, YouTube ou encore Reddit. Il y a plein de vidéos là-dessus, des marrantes, des flippantes. Et justement, tu verras que souvent, il est question de l'affaire dont je vais te parler aujourd'hui. Nous sommes le 19 juin 2020 à Seattle, dans l'état de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Seattle, c'est une ville qui a les pieds dans l'eau, elle est longée par le détroit de Puget. Ce détroit, long de près de 160 km, connecte entre autres l'État de Washington et la Colombie-Britannique au Canada. Alki Beach, c'est une plage dans le sud de la ville, un endroit assez prisé par les touristes mais aussi par les locaux. C'est une belle plage avec des couchers de soleil à couper le souffle et une vue imprenable sur le détroit et sur la skyline de Seattle. Alki Beach, c'est un endroit idéal pour se promener à pied, en vélo, pour faire son jogging ou encore pour profiter des restaurants qui bordent le front de mer. Et c'est sur l'avenue Alki, au niveau de Duwamish Head, un spot avec une vue superbe, qu'un jour, Randonautica pose un petit repère. Ce jour-là, trois adolescents se filment sur TikTok alors qu'ils se rendent aux coordonnées données par l'application. La zone est touristique, très animée, rien d'inquiétant au premier abord, pas d'usine désaffectée isolée, rien de creepy à l'horizon. Et alors qu'ils se promènent au bord de l'eau, les adolescents aperçoivent une valise échouée sur des rochers. Si on suit le principe du géocoaching, cette valise, c'est un potentiel trésor. une adolescente du groupe se dévoue pour aller y jeter un œil de plus près, et celui qui filme est tout excité. Il y a peut-être de la thune dans cette valise, qui sait? À l'aide d'un bâton, l'adolescente qui est descendue sur les rochers ouvre la valise. À l'intérieur, elle découvre un sac noir. Une odeur nauséabonde va très vite la dissuader de continuer. Elle s'écarte un peu. Le groupe hésite. Ils sont intrigués, mais ça sent littéralement la mort. Ils n'ont pas envie de découvrir le cadavre d'une bestiole. Ils préfèrent finalement appeler la police. Parfois, les adolescents, ça prend de bonnes décisions. La vidéo s'arrête un peu de temps après. Ça pourrait être un fake, une mise en scène plutôt réussie pour faire des vues. Le mystère de la valise de Duwamish Head. Malheureusement, la vérité est bien plus sordide. La police arrive sur les lieux au bout d'une heure et demie d'attente. Bon, en soi, c'était pas une urgence, juste une valise qui pue très fort. Aidés des pompiers de Seattle et de la patrouille portuaire, les officiers accèdent à la valise pour examiner son contenu. Un autre sac qui flotte dans l'eau un peu plus loin est également repêché. Quand on ouvre le sac, il n'y a plus de doute. Il s'agit de restes humains. Les agents sur place font remonter l'information et appellent le bureau du médecin légiste. Les trois adolescents sont sous le choc. Ils étaient venus pour du frisson, mais cette terrible découverte va au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. D'ailleurs, la personne qui filme dira plus tard qu'en rentrant chez lui, il s'est effondré. Un troisième sac est récupéré 3 jours plus tard, s'ajoutant à ces trouvailles déjà macabres. Et la question qu'on se pose forcément ici, c'est à qui ces membres appartiennent-ils? Et comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Le bilan s'élève donc à une valise trouvée sous la jetée de Duwamish Head et 2 sacs repêchés dans l'eau dans les environs. Les enquêteurs et le médecin légiste se penchent avec précaution sur leur contenu. Ils y découvrent des membres découpés qui ont été fourrés dans ces sacs poubelles et ces restes appartiennent à 2 corps. La docteure Katie Taylor, anthropologiste médico-légale de l'État de Washington, se penche sur ce cas. Pour elle, les découpes observées sur les corps des 2 victimes sont désorganisées et faites de différentes manières avec plusieurs types d'instruments. Le caractère criminel de ces 2 morts est déjà certain, mais en plus de ça, on pourrait avoir affaire à plusieurs tueurs. Découper un corps, démembrer un cadavre, ça prend un temps fou. Alors du coup, à 2, ça pourrait aller plus vite. La date de la mort est estimée au 9 juin. La découverte a lieu à peine 10 jours plus tard. Ça laisse au meurtrier, au singulier ou au pluriel, une fenêtre assez large pour découper les corps et en disposer. Enfin, je dis ça, en fait, je ne sais pas combien de temps il faut pour couper post-mortem. Le 30 juin, le bureau du médecin légiste du comté de King tient une conférence de presse. James Apa, leur porte-parole, annonce publiquement l'identité des 2 victimes. Il s'agit de Jessica Lewis, 35 ans, et Austin Benner, 27 ans. Tous les 2 sont des habitants de Burien, une ville située à 20 minutes au sud d'Alki Beach. James, le porte-parole, précise aussi les causes de la mort. Jessica est décédée de plusieurs coups de feu, on retrouvera dans son corps 7 balles au total, et Austin est mort d'un seul tir dans le torse. Ils ont été battus et tués avant leur démembrement, on pourrait presque se dire heureusement qu'ils ont été démembrés après. Les proches des victimes s'effondrent en apprenant la nouvelle, en plus de perdre 2 êtres chers, ils sont informés des détails macabres autour de leurs derniers instants. On ne peut qu'imaginer ce qu'ils ressentent à ce moment-là. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, on commence par la question de base. Qui sont les victimes? Jessica Lewis naît le 28 août 1984 à Maple Valley, dans l'État de Washington. Sa famille se compose de ses parents, Rocky et Patty, et de ses 2 frères, Justin et Jason. Jessica est maman de 4 enfants, Joshua, Drexel, Jaden et Anna. Côté professionnel, elle travaille avec sa grand-mère dans un établissement de soins pour adultes à Kirkland, au nord de Seattle, en tant qu'aidante auprès de personnes âgées et handicapées. Un métier aussi difficile qu'essentiel qui témoigne de son caractère profondément altruiste. Austin Venner, surnommé Cash par ses proches, est originaire de Kent, toujours dans l'État de Washington. Il a 27 ans, c'est un amateur invétéré de plein air. Sa mère témoigne de son amour pour la musique country, les feux de camp et les chiens. Austin, c'est un homme au grand cœur qui aime profondément Jessica et sa famille. Parce que tu l'auras deviné, Jessica et Austin sont en couple, et ce depuis près de 8 ans. Leur relation est aussi belle qu'au premier jour, et ils sont décrits par leur entourage comme des personnes formidables, bienveillantes, soucieuses de faire le maximum pour faire face aux soucis de la vie quotidienne. Alors que la pandémie bat son plein aux États-Unis, enfin partout ailleurs même, ils emménagent ensemble au 16 466 Ambom Boulevard à Burien, dans la banlieue sud de Seattle. C'est ringis quoi. La vie n'est pas particulièrement sympathique, les délits et les crimes y sont assez fréquents d'après les statistiques, même les locaux n'aiment pas sortir seuls la nuit de peur de se faire agresser. Jessica et Austin louent une chambre dans la maison de leur propriétaire, Michael Lee Dudley, un homme à la retraite. cette chambre leur coûte 1 500 $ par mois. Et ils ont du mal à payer autant d'argent pour un loyer. Ils n'ont pas de solution pour se reloger à ce moment-là, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Donc ils tiennent le coup et ils payent quand ils le peuvent. À part ces difficultés financières, ils vivent tranquillement et ils sont perçus comme des personnes tout à fait normales par les gens qui les entourent. Alors pourquoi ces deux jeunes gens appréciés de tous ont été sauvagement assassinés, leurs corps jetés dans le détroit de Puget? Le 19 juin, ça fait déjà plusieurs jours que les proches de Jessica et Austin n'ont pas reçu de leurs nouvelles. D'habitude, ils sont tous les deux joignables sur le téléphone portable de Jessica au moins, mais il est éteint et les messages en attente s'accumulent. L'inquiétude monte au sein de l'entourage. Après une semaine sans nouvelles, le père d'Austin se rend à leur domicile pour vérifier si tout va bien. C'est Michael, le propriétaire, qui lui ouvre et il lui annonce que ses deux locataires ont déménagé quelques jours plus tôt, comme ça d'un seul coup. Partir du jour au lendemain sans prévenir leurs proches, sans donner une nouvelle adresse, ça ne ressemble pas au couple. Le père interroge un peu plus le propriétaire qui lui assure ne pas en savoir plus. En repartant, le père d'Austin regarde autour de lui sans vraiment savoir ce qu'il cherche et au niveau des poubelles, un tas d'affaires attire son attention. Il reconnaît des vêtements qui appartiennent à son fils. Le couple ne roule pas sur l'or, donc pourquoi il serait parti en laissant derrière le peu d'affaires qu'ils avaient? Le propriétaire hausse les épaules, je ne sais pas. Le père d'Austin est perplexe, sentiment partagé par les personnes à qui il en parle, et malgré l'inquiétude de leur absence, de leur soi-disant départ précipité, mais surtout des affaires d'Austin dans la poubelle, personne ne signale à la police ce qui semble être une double disparition. Et j'insiste sur ce qui semble être, parce qu'il s'agit ici de deux adultes, ils ont peut-être des raisons d'être partis, bonnes ou mauvaises, ils reviendront peut-être à un moment ou à un autre où ils finiront peut-être par donner des nouvelles. Avance rapide à environ 2 semaines plus tard, donc fin juin, lorsque les deux corps trouvés à Alki Beach sont formellement identifiés comme étant ceux du couple de Burien. La tante paternelle de Jessica, dont elle était proche, se souvient très clairement du moment où son frère, donc le père de Jessica, l'appelle pour lui annoncer sa mort, un souvenir qui la hantera sûrement encore longtemps. La police prend l'affaire, bien sûr, très au sérieux. Les meurtres de Jessica et Austin et l'état dans lequel leurs corps sont retrouvés choquent profondément l'opinion publique. Comme je le disais plus tôt, les résultats des analyses médico-légales poussent tout de suite les enquêteurs vers la piste d'au moins 2 personnes impliquées dans ce double meurtre et démembrement, ou au moins pour le démembrement et le débarrassage des corps. La police regarde tout de suite du côté des autres affaires criminelles passées ou en cours dans la région. Malheureusement, on a déjà eu affaire à des cas similaires. En 2018, 2 ans avant les meurtres de notre couple, Rosalio Ramos Ramos tue son cousin Pedro Venegas Ramos de plusieurs coups de couteau avant de démembrer son corps et de le placer aussi dans une valise. Et ça se passe à Tukwila ou Tukwila, juste à côté de Burien. La police est alertée par le frère de Rosalio, inquiet que son cousin ait peut-être fait une bêtise, et puis par une voisine qui découvre la valise abandonnée au pied du complexe d'appartements où ils habitent. En mai de la même année, le corps d'une femme est retrouvé dans une valise abandonnée dans une décharge à Maltby, à 40 km au nord de Seattle. La victime est identifiée comme étant Jamie Haggard, disparue en 2018 alors qu'elle avait 27 ans. Et l'enquête dévoilera l'implication de David Haggard, son demi-frère, qu'il a tué, démembré et a brûlé ses restes avant de se débarrasser des preuves dans la décharge en question. Et on peut encore évoquer cet étrange phénomène qui a eu lieu dans le détroit de Puget depuis 2007, et de manière assez régulière, des pieds humains, encore dans leurs chaussures, sont ramenés sur le rivage par les vagues. Alors on est loin de l'image du Seattle de Grey's Anatomy où il n'y a que des médecins beaux gosses qui sauvent des vies. La police tente de rassurer le public, ce ne sont pas les victimes d'un crash d'avion ou d'un tueur en série qui sévirait dans la région, 2 hypothèses qui sont avancées par les internautes. C'est juste une conjonction de phénomènes naturels qui explique ces découvertes régulières. Entre la densité de population dans la zone, les courants marins et les vents, apparemment ce ne serait pas si étonnant que ça que ce qu'il reste de corps noyés ou de personnes accidentées s'échoue dans une même zone. Il n'y a pas de crime commis. Perso, j'ai pas compris la logique, mais c'est pas grave, next. Les autres affaires en cours dans la région ne correspondent pas avec le meurtre de notre couple, donc la police écarte tout lien avec d'autres affaires similaires. L'enquête suit son cours, et l'attention se porte sur la maison où résidaient Jessica et Austin. Le 19 août, 2 mois déjà après la découverte des corps, le juge délivre un mandat de perquisition pour que les enquêteurs puissent aller fouiller et voir ce qu'on trouve. Ils fouillent notamment la chambre bleue où vivait le couple avant leur déménagement précipité. Tout a été nettoyé depuis, mais la police trouve quand même des indices qui seront d'une importance capitale pour l'enquête. On se demande quand même pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour le mandat, mais c'est pas grave. Des impacts de balles sont retrouvés sur les murs, ainsi que des douilles vides et des munitions 9 mm. Donc nettoyées, mais pas très bien du coup. Une analyse plus poussée révèle que ces balles ne sont pas celles qui ont tué Jessica et Austin, mais ça reste le même type d'arme. Michael, le propriétaire des lieux, est incapable d'expliquer ce qui a bien pu se passer. En creusant du côté des relevés téléphoniques, les enquêteurs remarquent que le téléphone de Jessica, que son compagnon Austin utilisait aussi, cesse d'émettre vers 19h08 le 9 juin dans la maison. Et pour rappel, le 9 juin, c'est la date de la mort estimée par la médecin légiste. Le dernier appel reçu sur ce portable, il venait de qui ? Michael, leur propriétaire. Et cet appel a lieu 7 minutes avant que le téléphone s'éteigne pour toujours. Qui est Michael ? Michael Lee Dudley naît le 29 décembre 1957. C'est un homme de 64 ans, retraité, et qui loue régulièrement une partie de sa maison à Burien. Il vit seul, mais on lui connaît une relation assez longue entre 2006 et 2016, bien qu'ils se soient séparés et remis ensemble à plusieurs reprises sur cette période-là. Cette ex-petite amie, Marlys Gordon, décrit Michael comme doté d'une personnalité intense. C'est un homme extrêmement intelligent, qui a plusieurs relations avec des personnalités influentes, mais Marlys se souvient aussi de moments où Michael pouvait se montrer très violent. Il lui arrivait de la frapper, de lui tirer les cheveux, de jeter ses affaires dehors ou encore de la menacer avec une arme. Michael est arrêté en 2016 pour violence domestique et le couple se sépare définitivement cette année-là. En remontant un peu plus loin dans le passé, le casier judiciaire de Michael va dévoiler d'autres délits. Il est arrêté pour port d'une arme dissimulée, pour des vols de véhicules et pour refus de se soumettre à un dépistage de drogue par des agents de police. Mais le pire crime qui ressort de ce magnifique casier judiciaire, le voici. Michael aurait drogué et agressé sexuellement sa propre fille de ses 10 ans à ses 18 ans. 8 années d'horreur qui s'arrêtent en 2007 quand la jeune femme quitte la maison. En 2018, elle demande une ordonnance restrictive contre son père pour agression sexuelle. Cette qualification est remise en cause par la justice qui pense qu'il s'agit seulement de violence domestique. On refuse sa demande. Depuis, sa fille a changé de nom et elle a pris toutes les distances possibles et imaginables avec son père, enfin avec son géniteur. C'est donc sans grande surprise qu'on apprend que la relation entre Michael et ses deux locataires du moment, Jessica et Austin, était loin d'être cordiale. Alors imagine déjà l'inconfort de devoir vivre à deux dans une seule chambre, avec le reste des pièces de la maison en commun avec le propriétaire. Mais en plus, le comportement de Michael. Il n'avait qu'une hâte, que le couple se barre de chez lui. D'après Gina, la tante de Jessica, ça allait au-delà du simple propriétaire casse-couille ou envahissant. C'était un cinglé, d'après Gina, d'après Tata Gina. Il s'attaquait parfois à la voiture de Jessica et Austin pour les empêcher de se déplacer, par exemple. Tel Walter White dans Breaking Bad, il plaçait des GPS sur les véhicules des gens pour suivre leurs déplacements. Tata Gina se souvient aussi d'une fois où Michael aurait tué un chien qui s'était attaqué à ses poules. Il aurait ensuite laissé la carcasse pourrir devant la maison pendant 3 jours. Et si Tata Gina connaît tous ces détails sordides, c'est parce qu'il a fait ça sous les yeux du couple. Il voulait leur faire peur et ça a très bien marché. Autre événement marquant, peu de temps avant le double meurtre, des individus armés seraient entrés dans la maison pour tabasser Austin et Jessica. Et il est possible que ça avait plutôt un lien avec des affaires un peu cheloues dans lesquelles le couple se serait embourbé, mais ces informations ne sont pas confirmées. Michael n'apprécie pas du tout cette visite de courtoisie dans sa maison et il tient ses deux locataires responsables du désagrément. Après ça, c'est plutôt normal, on le comprend. Mais Michael n'est pas pour autant le gentil petit retraité sympathique qui a des histoires incroyables à te raconter. Il s'amuse à terrifier les gens. Il s'attaque physiquement et psychologiquement à quiconque a le malheur de vivre sous le même toit que lui. Tous ces éléments, combinés à son casier judiciaire, vont évidemment le placer au centre de l'enquête. Tous les efforts de la police se concentrent à présent sur lui et sa maison. Les derniers signes de vie d'Austin et Jessica se situent dans cette maison, sur Humboldt Boulevard. Des balles et des impacts de balles sont retrouvés dans leur chambre, ainsi que du sang qui appartient à Jessica. D'après Michael, ce sang proviendrait d'une simple coupure qui a eu lieu avant leur disparition, et en effet, la quantité retrouvée est assez petite. Ça pourrait correspondre à un petit bobo. Pour l'instant, les preuves sont surtout circonstancielles, mais c'était sans compter sur des témoignages qui viennent appuyer la culpabilité de Michael. En plus de Tata Gina qui nous a raconté tout ce qu'elle sait du personnage, le procureur qui suit l'affaire, Raymond Lee, dévoile l'existence d'un signalement reçu par le 911 le 9 juin. Aux alentours de 19h, un couple appelle le numéro d'urgence pour signaler des coups de feu au 16 466 Hambom Boulevard. Le mari aurait entendu une voix d'homme supplier « S'il vous plaît, ne faites pas ça, laissez-moi partir ». Quand la police arrive sur place, elle trouve la porte fermée et comme personne ne répond et que l'habitation est silencieuse, ils repartent. Au cours de cette même nuit, une femme qui devait emménager dans la maison passe pour déposer ses affaires. Michael prévoit de l'aider. Tout paraît normal, mais ses lunettes sont cassées et il a des égratignures visibles sur les bras. À un moment, la jeune femme se rend dans la chambre qu'elle devra occuper, la même chambre bleue qu'occupaient Jessica et Austin. Au milieu de la pièce se trouve une pile de vêtements jetés en vrac et de cette pile dépasse une main couverte de sang. Une vision aussi choquante que brève, à laquelle la jeune femme ne réagit pas immédiatement. Elle a peut-être sûrement mal vu. Parce que Michael, de son côté, il continue d'agir avec une décontraction déconcertante. Il lui explique qu'il doit ranger le bazar et il lui propose de la raccompagner. Non mais le couple, en fait, vient juste de mourir. Ils sont encore sous les fringues et le mec, il a déjà une nouvelle coloc. Tandis que cette nouvelle coloc rassemble ses affaires, Michael descend à la cave pour couvrir le sol de grandes bâches en plastique, toujours dans la plus grande décontraction déconcertante, il lui demande de jeter pour lui des armes qui traînaient dans un lavabo de la maison. La jeune femme pose des questions auxquelles il répondra seulement « disons que son arme à lui a raté son coup, mais pas la mienne ». La jeune femme ne s'installera finalement pas dans ce logement, dans cette maison. Le procureur Lee précise que ce témoin clé a pris des photos lors de son passage dans la maison ce soir-là, notamment des photos des impacts de balles visibles sur les meubles de la chambre bleue. Les trous en question ont depuis été bouchés à la va-vite par le propriétaire qui a ensuite repeint par-dessus. Quant à la possibilité qu'une main dépassait effectivement de la pile de vêtements, c'est tout à fait envisageable pour la police parce qu'à ce moment de la soirée, les corps devaient être entrés en état de rigidité cadavérique. Michael Dudley est finalement arrêté le 19 août 2020 pour deux charges de meurtre au second degré. Nous sommes 2 mois pile-poil après la découverte des corps. L'homme est emmené au SPD Homicide Office où il est interrogé sur les faits. Il ne lâche rien. Il est alors placé en détention à la prison du comté de King, à Seattle. Sa caution est fixée à 5 millions de dollars. Lors de son arrestation, Michael avait avec lui un pistolet 9 mm et le même type de munitions que celles retrouvées dans la chambre de Jessica et Austin, et aussi que celles qui les ont tuées. Les relevés du téléphone portable de Michael indiquent qu'il se trouvait dans les environs d'Alki Beach le 18 juin. C'est à une vingtaine de minutes de route de chez lui, lui qui n'a pourtant pas l'habitude de fréquenter ces lieux. Et d'ailleurs, sur 3 mois de relevés téléphoniques, c'est la seule fois où Michael se rend à Alki Beach. Et le lendemain, la première valise est retrouvée sur les rochers. Si la police continue de constituer son dossier, les proches de Jessica et Austin sont persuadés qu'ils tiennent le coupable. Sur la page GoFundMe qu'il crée pour offrir une récompense à quiconque aiderait l'enquête à avancer, Gina, la tante de Jessica, postera un long message où elle remercie la police de Seattle et tous ceux qui ont aidé à arrêter le monstre qui leur a fait ça. S'il vous plaît, continuez de prier pour sa condamnation. Lors du procès, justice sera rendue. La théorie sur ce qui s'est passé ce soir tragique du 9 juin 2020 est la suivante. Une dispute éclate ce soir-là sur fond d'un conflit autour des loyers impayés et sûrement d'autres désaccords. Les choses s'enveniment, tout le monde en vient aux mains, Michael est hors de lui, il s'empare d'une arme qu'il a chez lui, il tire sur Jessica à 7 reprises et Austin tente de le ramener à la raison, il le supplie de l'épargner, mais Michael lui tire dessus une seule fois. Austin succombera rapidement. Le meurtrier place les deux corps sous des vêtements au milieu de la chambre, parce qu'il y a la prochaine coloc qui arrive. Il accueille sa potentielle future coloc pendant plusieurs heures, avant de se retrouver à nouveau seul avec les deux corps. Il passe ensuite une bonne semaine à découper ses corps, il les place dans plusieurs sacs et dans une valise. L'état de l'enquête ne permet toujours pas, à ce jour, de confirmer ou d'infirmer l'implication d'un ou plusieurs complices à cette étape. Michael choisit finalement le détroit de Puget et la Duwamish River pour se débarrasser discrètement de ses colis un peu trop encombrants. Sans s'imaginer que dès le lendemain, une application mobile qui fait fureur enverrait un groupe d'ados directement vers l'épreuve. Reste à savoir si ces éléments seront suffisants pour faire condamner le meurtrier présumé. Le procès, présidé par la juge Amy Sutton, s'ouvre le 13 septembre 2022. Il durera un peu plus de 2 mois. Le procureur Raymond Lee présente les preuves rassemblées par les enquêteurs pendant les mois qu'a duré l'enquête. La cause de la mort est certaine, Jessica Lewis et Austin Venner sont bien décédés par arme à feu, mais les éléments qui permettent de relier ces tragédies à Michael Lee Dudley sont seulement circonstanciels. Contrairement à une preuve directe, une preuve circonstancielle concerne le contexte du crime, donc des éléments indirects, et ça n'a pas la même valeur bien sûr qu'un témoin direct ou des empreintes digitales ou l'arme du crime qu'on n'a toujours pas retrouvée, je précise. Et on ne retrouve pas non plus l'intégralité des restes de Jessica, mais les nombreux éléments entourant les meurtres vont permettre de remonter jusqu'à Michael. Il faut dire que ça joue clairement sa défaveur. L'avocat qui le défend, Bradley Barchis, ne l'entend pas de cette oreille. Il dénonce une enquête bâclée. Il conteste la crédibilité du témoin clé de l'accusation, la femme venue dans la maison de Michael juste après les meurtres. L'arme utilisée lors du meurtre n'a jamais été retrouvée. Les recherches dans la maison de Michael, notamment dans la chambre bleue, dans la cave et dans ses véhicules, ne permettent pas de retrouver une quantité de sang suffisante pour indiquer que les deux meurtres, puis démembrement des corps, y auraient été commis. 5 litres de sang dans un corps humain multiplié par 2, ça fait beaucoup. Et cet avocat, qui devrait lui aussi, je pense, écrire des scénarios de films ou de séries policières, va présenter des bouteilles de coca au jury pour leur montrer ce que ça représente, 5 litres de sang x 2, à nettoyer après avoir commis un crime. Sachant que le sang, c'est toujours censé laisser des traces impossibles à enlever. Hein. Les fameuses images qu'on voit dans les films ou dans les séries du spray qu'on vaporise, le luminol, et quand éteint, ça fait des chocs à pic. Sapin de Noël qui s'illumine, s'il y a du sang bien sûr. L'avocat de la défense explique également que les données téléphoniques du portable de Michael ne sont pas fiables. Elles ne sont pas assez précises pour pouvoir le placer exactement là où les corps auraient été jetés à l'eau. Mais pour le procureur, ces arguments ne suffisent pas. Comme je le disais, sur les 3 derniers mois, Michael s'est rendu une seule fois dans la zone de Duhamish Head, la veille de la découverte des corps, comme de par hasard. Surtout que si notre témoin dit vrai, Michael, tel Dexter, aurait utilisé des bâches en plastique pour découper les corps. Alors on avait dit que Mike était un homme intelligent. D'autres éléments ont aussi été relevés sur les corps des victimes. Des brins d'herbe, ainsi que des plumes d'origine animale qui pourraient correspondre aux poules que Michael possède sur son terrain. La possibilité que les corps aient été découpés ou déplacés à l'intérieur de la maison est donc tout à fait plausible. Je rappelle aussi que ça a pris 2 mois aux enquêteurs de se rendre au domicile de Michael pour une perquise. Donc le mec, il a eu le temps. 2 mois complets offerts au propriétaire pour qu'il puisse effacer les preuves. Les témoignages sur le caractère et les agissements de Michael au cours de sa vie jouent beaucoup contre lui. On imagine sans trop de mal un homme violent, détraqué, manipulateur, passer à la vitesse supérieure le meurtre. Une violence froide qui transparaît dans le processus de démembrement qui aurait pris beaucoup de temps et d'efforts, et cette volonté de passer par des étapes aussi extrêmes démontre bien la menace qu'il représente pour la communauté. Pour reprendre les mots de je ne sais plus qui. Quant à un tiers impliqué dans l'affaire, hormis le compte-rendu du médecin légiste, aucune autre preuve ne permet d'aller dans ce sens. Donc Michael est le seul mis en cause. Bah, il est intelligent, il n'a pas besoin d'aide. Il a juste besoin de 10 jours pour démembrer, 2 mois pour nettoyer la scène de crime et le tour est joué. On peut toutefois citer un événement qui a momentanément créé le doute. Dans la soirée du 22 août 2020, soit 3 jours après l'arrestation de Michael, 3 individus sont arrêtés alors qu'ils essaient de remorquer un véhicule présent sur la propriété de Michael. Le B-Town Blog, un média local de la ville de Burien, rapporte dans son article les propos du sergent Ryan Abbott. Les 2 hommes et la femme arrêtés seront condamnés pour tentative de vol, mais leur motivation reste incertaine. Est-ce qu'ils voulaient effacer des preuves pour Michael ou simplement profiter de l'absence du propriétaire pour le voler ? Impossible de le savoir. Au moment du procès, en 2022, l'accusation doit donc se résoudre à se concentrer exclusivement sur le seul mis en cause. Sans surprise, Michael Lee Dudley plaide non coupable, il nie les faits et il continue de clamer son innocence. Des tensions, des embrouilles, oui. « Mais c'est tout », dit-il. Le jeudi 8 décembre 2022, après 1 jour et demi de délibération du jury, Michael est déclaré coupable. Les chefs d'inculpation retenus sont les suivants. 4 chefs de meurtre au second degré sur les personnes de Jessica Lewis et Austin Venner et 1 chef d'inculpation pour possession d'armes à feu lors de la commission d'un crime. Sa peine est établie à 46 ans et 8 mois de prison. Puisqu'il est âgé de 66 ans lorsque sa sentence est prononcée, ça veut très probablement dire que Michael va finir ses jours derrière les barreaux. Les proches et les familles de Jessica et Austin sont extrêmement soulagés de cette sentence. Ça ne ramènera pas les 2 victimes, mais voir le monstre qui a pris la vie du couple derrière les barreaux, c'est tout ce qu'ils attendaient de ce procès. Charlene Kriens, la mère d'Austin, dira aux journalistes que que le monde est un endroit plus sûr sans Michael Dudley. Tout le monde peut être tranquille ce soir grâce à ça. Elle estime que maintenant que le meurtrier est hors d'état de nuire, les deux familles pourront commencer à faire leur deuil et honorer les mémoires de Jessica et Austin. Mon fils nous éclaire de là-haut et il dit « Tu l'as fait, maman ». Du côté de Jessica, c'est sa tante Gina qui prend la parole au nom de la famille. Elle dit que les quatre enfants de Jessica sont soulagés que ce monstre ne puisse plus blesser qui que ce soit. Et elle rappelle également un point essentiel. Il ne faut pas se souvenir de Jessica et Austin comme des corps mutilés retrouvés dans des sacs plastiques. C'était deux êtres merveilleux, profondément gentils et généreux, arrachés trop tôt à la vie. Pour conclure cette vidéo, on revient bien sûr aux réseaux sociaux et à leur impact sur cette affaire. Après la publication de la vidéo sur TikTok, elle atteint près de 30 millions de vues. Ces trois adolescents n'avaient pas prévu les retombées de cette balade innocente près de Duhamish Head. L'utilisateur qui a posté la vidéo, @HugHenry, déclare d'ailleurs dans la description que dès qu'il est rentré chez lui, il s'est effondré. Enfin, ça, je te l'avais déjà dit plus tôt. Heureusement, en faisant attention à leur environnement et en voulant vérifier le contenu de cette valise noire, ils ont permis aux forces de l'ordre de faire la lumière sur ce drame. Les sacs auraient bien pu ne jamais être repêchés, ou du moins pas à temps, pour récolter suffisamment de preuves. Mais le succès morbide de cette vidéo a rapidement poussé les proches des victimes et de très nombreux internautes à demander la suppression de la vidéo à la plateforme TikTok. Et dans un premier temps, TikTok refusera, estimant que la vidéo n'entrave pas les conditions d'utilisation. On ne voit pas d'image, de contenu gore ou quoi. La vidéo sera finalement supprimée des mois plus tard et on ne sait pas si c'est à l'initiative de l'utilisateur, donc l'adolescent qui l'a postée, ou à l'initiative de la plateforme TikTok. À l'heure actuelle, Michael Lee Dudley continue de purger sa peine et si on en croit les images récentes de Google Maps, la maison du 16466 Ambon Boulevard a été démolie et des travaux sont en cours pour créer 4 logements à la place. Alors, fun fact, est-ce que tu savais qu'aux États-Unis, il y a une loi qui prévoit que si une personne est morte dans un logement, le propriétaire, le bailleur, ce que tu veux, a l'obligation d'en informer les futurs locataires ou futurs propriétaires, s'il s'agit d'un achat. Alors, c'est les USA, donc d'un état à l'autre, les conditions varient. Par exemple, dans certains états, si c'est une mort naturelle, il n'y a pas d'obligation d'informer. Par contre, ce qui reste pareil dans tous les états, c'est le meurtre ou la dévivantation. Il y a une obligation de révéler cette information, et dans certains cas, c'est uniquement si le futur locataire ou propriétaire pose la question à l'agent immobilier ou au bailleur. C'est pourquoi il existe un site internet pour vérifier de toi-même si tu n'as pas confiance en ton agent immobilier. Bienvenue sur diedinhouse.com, le service web pionnier qui révèle l'histoire d'une maison, révélant si quelqu'un est décédé à une adresse valide aux États-Unis. Bon, le site est payant, c'est les États-Unis, rien n'est gratuit, mais voilà. Si jamais tu connais une adresse aux USA et que tu veux vérifier si quelqu'un est mort là-bas, contre la modique somme de je ne sais plus combien... tu pourras avoir l'information. Donc on se quitte avec un random item review un peu particulier, et cette fois c'est plutôt moi qui vais te demander c'est quoi ton random item. Alors je vais poser une question dans un cadre un peu assez spécifique. Qu'est-ce que tu fais, donc, je vais essayer de pas la poser trop longue cette question, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, pas forcément tous les jours, mais au cours de la semaine disons, pour te rendre heureux ou heureuse? C'est une question qui paraît bête, mais je suis à la recherche de choses à faire, autre que bouffer, autre que jouer avec mes chats, parce que certes, ça m'apporte du bonheur, mais ça ne me fait pas sortir de chez moi. YouTube m'enferme énormément, et donc une des dernières discussions qu'on a eues avec mon psy, parce que je suis folle, c'était de trouver des choses qui me rendent heureuse au quotidien. Donc un de mes projets pour là très bientôt, que j'ai commencé à faire pendant un moment, puis que j'ai arrêté, c'est d'aller dans un café. Pour travailler depuis mon ordinateur, donc j'ai pas forcément besoin d'être ici pour le faire. Aller dans un café, ça va me permettre de sortir un peu, voilà. Et c'est une question que je suis contente de poser ici parce qu'on est à l'ère du télétravail, donc je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là. Je sais pas, les youtubeurs, les tiktokers, tout ce que tu veux, on n'est pas les seuls concernés par le fait d'être plus isolés, plus enfermés chez soi. Donc voilà, en dehors du classique d'aller voir les copines, évidemment, d'aller au resto, mais encore de la bouffe. Si t'as des idées, si t'as des suggestions, s'il y a des trucs qui te rendent heureux, des petites choses, pas grand chose, un truc que je compte remettre en place aussi bientôt, c'est réparer mon vélo pour aller faire des balades dans Paris, donc tu risques de me croiser peut-être, pas chez Starbucks sur les bords de Seine ou dans un café, un petit truc indépendant, Starbucks c'est fini. Voilà, c'était ma question, c'est la question que je voulais poser, merci infiniment à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à la fin et qui m'ont subi jusqu'ici. Vous êtes les bestes, les meilleurs. Merci de laisser un commentaire, je le rappelle, mais bon, voilà, ça aide énormément la chaîne, surtout que j'ai été absente. Bon, c'était seulement la semaine dernière, mais ça peut grandement négativement impacter. Donc, merci de laisser un commentaire, merci d'être là, de me soutenir, de m'aimer à distance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.